Radio Prague, les informations.
Le déficit du budget de l'État préparé par le nouveau cabinet Topolánek serait supérieur à 100 milliards de couronnes. Un cortège en costume historique a traversé la capitale tchèque. Prague accueillera une conférence anatomique internationale. Ce lundi après-midi, le président Václav Klaus nommera les ministres du nouveau cabinet de Mirek Topolánek. Celui-ci comptera 9 membres du Parti civique démocrate, l'ODS, et 6 sans parti. Préparer le budget de l'État, dont le déficit varierait entre 88 et 170 milliards de couronnes, se présente comme l'une de ses premières tâches. Une autre priorité du nouveau gouvernement sera la réforme du système des retraites, pour laquelle il espère trouver un consensus général. Le cabinet devrait gouverner le pays jusqu'aux élections anticipées prévues pour le printemps prochain. Au début du mois d'octobre plus tard, le cabinet demandera la confiance du Parlement. Ce dimanche, un cortège historique en costume de l'époque a traversé Prague, en rappel du couronnement de Charles IV, empereur romain. La 43e conférence anatomique internationale commencera ce lundi à Prague. Elle se penchera entre autres sur de nouvelles tendances dans l'anatomie et l'histologie. La journée européenne de la culture juive incombant ce dimanche a permis au public de visiter nombre de sites et de monuments à Prague, Brno, Teplice et dans d'autres villes du pays. Fin dans la ville de Borva, des festivités de 3 jours qui ont été consacrées à Karel Havlíček Borovský, grand écrivain et journaliste tchèque. 185 ans s'écoulent depuis sa naissance et 150 ans depuis sa mort. Ce dimanche, le dernier jour des vacances d'été, la circulation sur les routes tchèques a été beaucoup plus faible et tranquille que prévu. Dans le riche programme qui marque ce week-end culturel à Prague, on notera la 2e et unique reprise de l'opéra Antigone du compositeur tchèque Josef Myslivecek, donné vendredi en première au Théâtre des États. Son exécution a ouvert la nouvelle saison de cette prestigieuse scène d'opéra. L'Opéra d'État de Prague, Státní opera Praha, quant à lui, accueille le Festival de l'Opéra italien. Sport aux éliminatoires pour les championnats d'Europe de football. Les footballeurs tchèques ont battu samedi soir à Teplice la sélection de Wales 2-1. Météo, ce dimanche, le ciel a été couvert. Pour lundi, qui est le jour de fête de Jindřiška Henriette, la météo prévoit un ciel à moitié dégagé. Des températures diurnes se situent entre 21 et 25 degrés. Ce lundi est le jour de la rentrée scolaire pour les écoliers et les élèves tchèques. C'était le journal préparé par Alena Gebertová.
Culture sans frontières. Magda Segertová.
Merci d'écouter Culture sans frontières. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre du peintre Rostislav Kunovský, établi depuis la fin des années 1970 en France et qui expose actuellement ses toiles à Prague. Vous entendrez la seconde partie de l'interview de l'artiste réalisée par Anna Kobešta. Dans la seconde partie de l'émission, il sera toujours question d'art plastique. Nous parlerons d'une exposition de photographie prise par des étudiants tchèques et français autour du thème des banlieues des capitales de leurs pays respectifs. Alexis Rosenzweig a invité au studio de Radio Prague l'organisatrice de l'exposition Pavlína Kemrová. Suite aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, de la découverte du peintre Rostislav Kunovský. Anna Kobešta l'a rencontré la semaine dernière, alors qu'il était encore en plein préparatif de son exposition, inaugurée le 28 août à la mairie de la vieille ville de Prague. On écoute son reportage.
On se trouve là, dans une école. Rostislav Konovski, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, exactement?
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'assembler les châssis.
C'est du travail de charpentier?
C'est du travail de charpentier, oui, c'est ça, je crois, oui. Et c'est pour préparer cette exposition, pour ensuite tendre les toiles là-dessus.
Dites-moi, est-ce que c'est votre première exposition ici à Prague?
Ou... C'est la première exposition ici, oui, bien sûr. Et surtout dans cet endroit-là, un très beau endroit, très réputé.
Et alors, les autres expositions que vous avez faites, elles étaient uniquement en France?
En France ou en Suisse.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en France?
C'est en 77. Je suis parti en voyage avec l'idée de partir, voilà, pour toujours. Mais cette idée-là, j'avais depuis des décennies, depuis toujours. Depuis l'âge de tout petit, j'ai cherché sur la carte des endroits où je vais partir.
Et d'où venait cette envie de voyage et de voyage ou d'émigration ou...
C'était pas une émigration, c'était un voyage. Donc de partir, de voir autre chose. C'était quelque chose de magique de voir toutes ces possibilités de vies différentes. Je voulais les connaître. Ma première étape, c'était partir à Prague. Et je pensais découvrir des choses. Bon, certaines choses, j'ai découvert, d'autres... Ce n'était pas suffisant. Le rêve, c'était effectivement les Far West, les États-Unis. Mais une autre possibilité, c'était la France. Et finalement, je me suis arrêté en France parce que, après, comme j'ai découvert Paris et la France, je ne pensais pas que je pourrais vivre ailleurs que là.
Et vous peignez déjà quand vous étiez en Tchécoslovaquie ou...
Je peignais déjà en Tchécoslovaquie depuis l'âge de 6 ans. Je n'ai jamais fait une formation, mais j'ai vécu dans un milieu qui était un milieu cultivé et culturel. Mon père était architecte, son oncle était un architecte très important à Prague, qui participait justement dans les mouvements artistiques de l'avant-garde, de l'avant-guerre. Effectivement, j'étais toujours, cette réalité était toujours présente dans mon esprit et dans toute mon éducation, dans toute mon enfance.
Alors je vois ici les toiles qui sont par terre et on est quand même dans une grande salle et il y en a à peu près 7 tableaux qui sont par terre. Donc c'est quand même des grands formats, c'est 2 mètres sur 2 mètres.
Voilà, des formats de 2 mètres sur 2 mètres. Après, les plus petits formats, 1m30 sur 1m, je crois, 1m60. Et il y a des œuvres sur papier, 1m50 sur 1m50. C'est des différentes techniques. Ce qu'il y a sur la toile, c'est en général, c'est des techniques peintures à l'huile, éventuellement les peintures à l'huile et la gouache avec l'encre de Chine. Il peut y avoir la peinture à l'huile avec des collages, papier, des journaux. Tout son travail avec des superpositions de couches très fines de peinture, avec des glacis, des frottis, etc. Et une autre série, des pianos, ce sont des peintures aussi à gouache, et surtout à le fusain.
Vous avez travaillé sur le piano. Vous êtes laissé inspirer par la musique que vous avez écoutée, qui vous avait plu particulièrement. Est-ce que c'est un compositeur qui vous a inspiré ou...
La musique est toujours très présente dans la culture tchèque. C'est une anecdote que je faisais moi-même, la musique, quand j'étais enfant, quand tous les enfants. Cette sensibilité me restait toujours. Mes enfants, ils font la musique. Les créatures tchèques sont magnifiques. Et effectivement, les pianos, c'est peut-être un peu un symbole de ça, mais ce n'est pas seulement ça. Les pianos, ils sont arrivés après une autre série qui était la série des animaux sauvages, où figuraient des loups, des cerfs, des sangliers, oui, des animaux. Et je pense qu'il y a un lien avec les pianos.
En quoi?
Comme j'invitais un pianiste à voir mon exposition à Paris, je lui ai montré le piano. Il m'a dit, oui, le piano, sont des bestiaux. Et effectivement, dans mes peintures de piano, il y a quelque chose de ça, de cette animalité un peu, de cette chair, de ces veines, de ces éléments un peu sauvages.
Et votre série sur la ville, elle est née comment?
La ville, elle est venue après une autre série, donc après les pianos et les séries des livres. Et en fait, c'est un peu une synthèse de ces deux éléments. Et effectivement, comme je travaillais sur cette série, je pensais beaucoup à des pianos, à des livres. C'était tout mélangé un peu en moi. Et finalement, ils ont sorti des villes.
ou comment la ville peut être appréhendée aussi comme un objet littéraire et musical. C'est sur cette hypothèse poétique que j'ai laissé Rostislav Kunovski, qui avait encore bien à faire pour terminer à temps ses châssis. Depuis lundi, son exposition est ouverte au public et elle s'achèvera le 10 septembre.
De la peinture, passons à la photographie. Jusqu'au 11 septembre prochain sont exposées à Prague des photos prises par des étudiants tchèques et français autour du thème des banlieues, des capitales de leurs pays respectifs. Pavlina Kemrova est à l'origine de ce projet. Elle vous en dira plus au micro d'Alexis Rosenzweig.
L'année dernière, j'ai fait mon service volontaire européen à Chilly-Mazarin, en France. Et là-bas, j'étais obligée de créer mon projet personnel. Donc, du coup, j'ai créé cet échange pour les jeunes.
C'est-à-dire un échange qui, en fait, ce sont des étudiants tchèques qui sont allés en France pour rencontrer des étudiants français pour aller photographier dans les banlieues.
Non, c'est encore plus difficile parce que normalement, échange, ça veut dire juste qu'un groupe de jeunes va dans un pays. Et on a le fait réciproquement, en fait. D'abord, les Français sont allés en Tchéquie et puis les Tchèques sont allés en France.
Et alors, qui est-ce qui subventionne ce type d'échange?
C'est l'Agence nationale tchèque de programme jeunesse. Et aussi le SAOP, c'est l'organisation qui s'occupe des enfants avec des besoins spéciaux et qui intégrait les enfants qui sont handicapés, en fait. Et c'est aussi l'organisation d'envoi qui m'a envoyé en France.
Dans beaucoup de médias tchèques, les banlieues françaises, surtout depuis les événements de l'année dernière, sont décrites comme des endroits dangereux où il ne faut pas aller. Est-ce que les étudiants tchèques avaient peur de s'y rendre pour aller photographier? Est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes?
Donc déjà, comme la plupart de la groupe tchèque, ce sont mes amis. Donc, on a beaucoup parlé en avance, on a changé des emails, donc, ils ont me demandé est-ce qu'il y a des voitures bruyantes ou non. Donc, j'ai répondu qu'il n'y a pas de problème parce que cette banlieue du Sud n'est pas vraiment dangereuse.
C'est donc à Chilly-Mazarin que vous avez photographié?
Oui, il y a, en fait, où j'habitais, c'est à Longjumeau. C'est une ville qui est vraiment à côté de Chilly-Mazarin. Donc là-bas, c'est un peu plus dangereux, mais Chilly-Mazarin, on peut dire que c'est une ville très calme. On peut dire un peu bourgeoise aussi.
Et alors, quel type de clichés est-ce qu'ils ont pris, les étudiants, là-bas?
Les Tchèques, ils ont été trop surpris au début parce qu'il y avait beaucoup des immigrants, beaucoup de gens d'origine. Donc, ils ont imaginé la France avec les stéréotypes, le fromage, le vent, romantique la Tour Eiffel. Et là-bas, ça n'a rien à faire avec en France, la France laquelle les gens imaginent en Tchéquie.
Alors, vous m'aviez dit avant que c'est les étudiants français qui, en fait, avaient le plus peur d'aller dans les banlieues, alors que les étudiants tchèques, en fait, voulaient y aller.
Ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, ce sont grands voyageurs. Tous mes amis, ils ont visité beaucoup de villes, donc pour elles, c'était une nouvelle expérience, mais rien abnormal.
Et les étudiants français?
Ouais, ils ont eu peur, parce qu'ils ont imaginé la Tchéquie comme un pays communiste, où il y a beaucoup de mafias, des choses comme ça. Et finalement, ils étaient très, très surpris, parce qu'ils disent, c'est vraiment comme chez nous.
Alors, combien de photos est-ce qu'on peut voir exposées dans ce bar de Prague?
Au début, il y avait à peu près 40 photos, donc c'était un peu trop, donc il fallait un peu éliminer. Donc maintenant, il y a 18 photos. On a travaillé dans un petit groupe ou dans le binôme, et chaque binôme a choisi un sujet. Le sujet général était exclusion sociale. Et chacun a pris son sujet personnel, donc les personnes handicapées, les toxicomans, les SDF. Et en fait, chaque binôme ou chaque petit groupe de 3 personnes travaille sur ce sujet. L'idée générale était la comparaison de la situation à Paris et à Prague. Le nom du projet est tous différents, tous égaux. Donc d'abord, chacun a pensé, c'est sûr qu'à Paris et à Prague, ou plutôt à Chilly-Mazarin, ça dépend, parce que chacun a pris la photo à Paris, quelqu'un à Paris, quelqu'un à Chilly-Mazarin. D'abord, chacun pensait qu'il faut que ça soit différent, parce que le pays n'est pas le même. Mais finalement, on a trouvé que les problèmes sont partout pareils. Donc, c'est tous différents, mais tous égaux. Finalement, alors, les problèmes sont partout pareils.
Est-ce qu'on peut comparer les problèmes dans les banlieues parisiennes aux problèmes dans les cités en dehors de Prague?
Tout à fait, parce qu'il y avait juste une petite différence dans le problème squatting, parce que les squats sont maintenant interdits en France. Par contre, il y a Prague, ça marche. Mais les autres sujets, on a trouvé que c'est vraiment le même problème, la même solution de résoudre ces problèmes.
Mais alors, enfin, pour des Français qui viennent ici, s'étonne toujours de voir dans ces cités en bordure de Prague qu'il n'y a pas d'immigrés, que la population est quand même assez mélangée, alors que quand les Tchèques vont en France, ils s'étonnent de voir qu'une population immigrée dans les cités françaises. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi?
Comme SV, quand je suis arrivée, oui, tout à fait.
Mais alors, est-ce qu'on peut quand même comparer les problèmes, même si c'est...
Oui, parce qu'on a aussi la communauté vietnamienne et ukrainienne. Après, il y a différence, parce que bien sûr, ce sont les cultures très différentes. Les vietnamiennes et ukrainiennes ici sont ici vraiment pour le travail, et puis ils rentrent pendant les vacances, voir... ses familles, etc. Par contre, les immigrés en France, ils restent là-bas. Là, il y avait bien sûr des différences, mais il y a aussi le problème avec l'hébergement pour eux, avec le travail. Donc, les problèmes sont toujours pareils partout.
Et quelle est la photo qui vous plaît le plus dans cette exposition?
C'était une photo du sujet jeunesse. En fait, donc c'est le nom général, mais c'est le problème de jeunesse. Et c'est une photo d'une association qui s'occupe des tziganes, à Zhishkov, je pense. C'était une fille qui a pris cette photo. Et il y avait les enfants qui regardent le ballon. Mais le ballon, il n'est pas là. Il est dehors, hors de photo. Donc c'est vraiment comme l'espoir, comme tous les enfants regardent dans le ciel, qu'est-ce qui arrive. Na faje ta hoy me tut kama bo mai me hapira normalo.
Les photos d'étudiants tchèques et français sont exposées jusqu'au 11 septembre au bar café 3+1 10 rue Plaska dans le quartier de Malastrana. Culture sans frontières, c'est fini. Merci de votre attention. Très bonne semaine sur Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je vous invite aujourd'hui au château de Jemniště, un des bijoux moins connus du style baroque, restitué en 1995 à ses anciens propriétaires, la famille Sternberg, qui réussit à accomplir son ambition, donner un souffle nouveau à cet endroit un peu à l'écart des principales destinations touristiques. Le château de Jemniště se trouve non loin de la ville de Benešov, à une quarantaine de kilomètres au sud de Prague. Une allée de tilleuls nous mène au jardin La Française, qui orne la cour d'entrée du château. Le bâtiment central de deux étages, dominé par un élégant pignon terminé en balcon, est coiffé d'une petite tour dans laquelle est intégrée une horloge. De deux côtés se trouvent des bâtiments plus bas, à un seul étage. Dans ceux de droite se trouvent les appartements privés de la famille Sternberg, tandis que l'aile gauche appartient aux visiteurs qui ont à leur disposition un café, un service de guide et une boutique où l'on vend de petits cadeaux souvenirs. Autrefois, le château tout entier était entouré d'un jardin à la française, avec ses tracés géométriques et des alignements d'arbres. Au XVIIIe siècle, ce jardin a été remanié en parc anglais d'une superficie de 13 hectares dans lequel est intégré un système de 3 étangs. Le château est non seulement un bijou baroque, mais aussi un exemple des soins apportés par ses propriétaires à ce monument. Lorsqu'il leur a été restitué il y a plus de 10 ans, Jiří et Petr Stenberg ont trouvé des bâtiments délabrés, tout comme la végétation. En peu de temps, ils ont réussi à réhabiliter l'ancien jardin français dans la cour d'entrée, fonder un jardin de rocaille, installer un café accueillant et des appartements romantiques. L'ambition des propriétaires est de créer une ambiance agréable qui fasse plaisir non seulement aux couples qui décident de célébrer leur mariage au château, mais aussi à tous les visiteurs. Très agréable et reposante est la promenade dans le parc anglais, derrière le château où on peut voir des perroquets et autres oiseaux exotiques, bien entendu derrière le grillage d'une immense volière, ainsi que des paons vaniteux en train de promener leurs petits. La symétrie parfaite du château, le parc et le jardin parfaitement entretenus produisent un sentiment d'harmonie étrange, comme si, pour un instant, l'époque du baroque était réellement présente autour de nous. Un mot sur l'histoire du château de Jemnichtje. En 1717, František Adam Trautsmandorf a confié au célèbre architecte baroque František Maximilian Kaňka l'édification d'un château baroque. Sa décoration intérieure est l'œuvre de maître tchèque Matyáš Bernard Braun et Václav Vavřinec Reiner. En 1754, un incendie a endommagé le bâtiment central, réparé la même année. Seule la chapelle consacrée à Saint-Joseph était restée intacte, avec sa décoration baroque originale, dont la fresque de l'Assomption, l'autel, les tableaux baroques ornant les autels latéraux et l'orgue. La chapelle sert de lieu de célébration des mariages et des concerts de musique pour orgue y sont également donnés. Quant aux intérieurs du château, ils sont aménagés avec des meubles, des tableaux et des porcelaines d'origine, de style baroque, rococo et empire. Il y a une grande salle de danse, plusieurs salons et boudoirs, une bibliothèque, une salle à manger et une salle de bain. Durant son existence, le château a changé plusieurs fois de propriétaire. Après la mort de František Adam Trautsmandorf, ce fut la veuve d'un proche du comte, Gabriela Tchernine, mariée au fonctionnaire autrichien, grâce auquel Jemnichtje est devenu un important centre de l'industrie du coton de la monarchie habsbourgeoise. En 1868, Jemnichtje a été acheté par Zdeněk, comte de Stenberg, propriétaire du château voisin de Český Stenberg. La dernière propriétaire d'avant-guerre, Thérèse Sternberg, a épousé le comte François Mansdorff-Pouilly, avec lequel le château subit une influence française. En 1943, une vente forcée fut proposée au dernier propriétaire, mais ceux-ci refusant, ils furent contraints de quitter le château. Avant leur départ, ils parvinrent encore à déménager des meubles et autres objets de valeur au château voisin de Český Stenberg. Pendant la guerre, le château fut dévasté par l'armée soviétique, puis nationalisé après la libération en 1945. Pour une courte période, il fut restitué au Mansdorff-Pouilly, mais en 1951, à nouveau étatisé. Ce n'est qu'en 1995 qu'il fut restitué à ses anciens propriétaires Stenberg.
Thank you.
Les visites du château ont lieu pendant toute l'année et le château reste ouvert au public, même le lundi, jour pendant lequel d'autres châteaux et galeries en République tchèque sont habituellement fermés. Pendant la visite guidée, qui dure 45 minutes, les visiteurs peuvent admirer 9 pièces historiques. Une chose est typique pour le château de Jemnichtje, l'unification des beautés historiques avec les activités commerciales, sans que l'ambiance en soit perturbée. Ces activités sont nombreuses depuis l'hébergement dans 3 appartements aménagés dans le style baroque, les mariages déjà mentionnés ou encore les célébrations d'anniversaire. Un mot encore sur la famille Steinberg qui possède sur son blason l'étoile en or à 8 branches dans un champ bleu qu'on peut trouver également dans les armoiries de plusieurs villes, dont celle de Benešov ou Počatky. Plusieurs de ses membres figurent dans l'histoire tchèque, le premier Divish, qui fit ériger en 1241 un des châteaux forts les plus solides tchèques Steinberg. Au tournant des 18e et 19e siècles, une autre personnalité a rendu célèbre cette famille, Gaspard Steinberg, naturaliste et savant de réputation européenne, qui se trouva en 1818 au berceau de la fondation du musée national du royaume de Bohême, précurseur du musée national actuel. Le palais qui abritait ce premier musée porte le nom de Steinberg et se trouve sur la place Hradčany devant le château de Prague. Mais ce serait déjà une autre promenade. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté en notre compagnie et à très bientôt sur Radio Prague.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 20.